dans l'Évangile. Il y a plus de joie, nous dit Jésus dans l'Évangile selon saint Luc, au ciel pour les anges, lorsqu'un pécheur se réconcilie avec son Dieu, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de réconciliation. On n'entend pas. Vous m'entendez ?
Ça y est, vous m'entendez là ? Ah, alors il faut que je recommence. Parce que la bonne nouvelle de ce soir, c'est qu'il y a joie au ciel, Jésus nous dit dans l'Évangile selon saint Luc, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se réconcilie avec Dieu que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de réconciliation. Alors bonne nouvelle, ce soir nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin de la miséricorde de Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons écouter le commentaire que le Seigneur voudra bien faire à travers sa pauvre petite trompette que je suis, et puis ensuite nous irons trouver notre Père à travers le visage d'un prêtre pour lui dire que nous l'aimons et entendre nous dire qu'il nous aime et que nos péchés il veut les prendre sur lui. Nous chantons encore une fois le refrain « Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis et comblés ».
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Nous la connaissons bien, cette parabole. En fait, c'est la troisième parabole d'un même tableau. Vous savez qu'il y a avant cette parabole de la drachme perdue, de la brebis perdue, de la drachme perdue et puis du fils perdu. Et vous savez que nous appelons cette parabole habituellement la parabole de l'enfant prodigue. Mais il me semble qu'il faudrait l'appeler la parabole du père prodigue. Car lorsque les pharisiens, qui étaient des gens très bien, très religieux, très pratiquants, qui connaissaient très bien la loi de Moïse, et les scribes, ceux qui avaient la charge de l'écrit, donc les notables de la vie religieuse du temps, interpellent Jésus, ils disent « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Et Jésus répond par cette parabole qui commence ainsi. Un homme avait deux fils. Un homme, un père, avait deux fils. Cette parabole, elle nous concerne. C'est la parabole qui nous parle, parmi tout l'enseignement de l'Évangile, d'une manière admirable, de ce père qui est le nôtre et de ces enfants que nous sommes pour ce père. Alors c'est la parabole et du Père qui est prodigue en amour et des enfants que nous sommes, prodigues que nous sommes pour dilapider les biens de la maison et faire n'importe quoi et oublier l'essentiel. Voilà la parabole. C'est la parabole du Père prodigue. C'est pas d'abord la parabole qui va nous raconter nos bêtises, nos erreurs, nos errements. Même si concrètement, il s'agit bien de cela. C'est d'abord une parabole qui nous donne le visage de Dieu et notre visage. Saint Antoine aimait beaucoup reprendre cette pensée des pères de l'Église, lire l'Écriture sainte. C'est découvrir d'où nous venons, nous les hommes. Qui nous sommes et où nous allons? Eh bien, en lisant cette parabole, nous avons comme un résumé de tout l'Évangile. Nous venons du Père, nous sommes nés par la volonté de Dieu dans le sein de notre maman, à travers l'amour de nos parents, nous sommes nés de Dieu. C'est lui qui donne à des parents un enfant. Nous vivons en lui, c'est lui qui continue de créer. Pour moi, ce soir, comme chaque fois que je prêche, je me dis que la plus belle preuve d'amour, je l'ai devant moi, la plus belle preuve d'amour de Dieu, c'est vous. C'est moi, c'est chacun de nous. Parce qu'en ce moment même, si Dieu ne pensait pas à nous avec amour, il n'y aurait plus personne. Nous sommes chacun un acte d'amour de Dieu. Il n'y en a pas un dans cette assemblée, ni sur cette terre, qui se donne la vie à lui-même. Nous la recevons sans cesse de Dieu. Nous sommes un acte d'amour de Dieu. Et la création est un acte d'amour de Dieu. Si vous voulez une preuve de Dieu, autant qu'on puisse parler de preuve, c'est cela. Un jour, Jean de la Croix était tellement pris par cela qu'il sort du couvent et avec ses novices, il embrasse un arbre et puis il dit « Dieu en amour ». Voilà. Regardez cette création, regardez qui vous êtes. Voilà. Alors, la création que nous sommes est souvent défigurée, mais nous demeurons un acte d'amour. Et puis nous allons vers Dieu. Et cette parabole nous le dit avec tout l'évangile. Nous sommes faits pour Dieu. Saint Augustin, aussi un auteur que saint Antoine de Padoue aimait beaucoup, vous connaissez cette phrase, cette parole, cette affirmation si forte de saint Augustin dans ses confessions. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Connaître Dieu, c'est se connaître, savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Et bien voilà cette parabole. Alors, ça serait bien long de la commenter dans tous les détails, tellement elle est riche, cette parabole. Mais je veux souligner ce soir, en vous la commentant, combien les deux fils de cette parabole n'avaient rien compris à leur père. Mais vraiment rien. Le premier d'abord. Alors c'est chacun de nous, les deux enfants. Hein. Je suis tour à tour, et le fils cadet qui s'en va et qui dilapide l'héritage, et le fils aîné qui est resté dans la maison. Selon les périodes de ma vie, je suis plus ou moins l'un et l'autre, mais au fond, ces deux enfants, c'est chacun de nous. Voilà. Alors à certains moments de ma vie, je suis comme le fils cadet. Je prends. Je demande même pas, je prends. Je prends tout ce que le Seigneur m'a donné déjà, parce que lui, il a tout donné, il n'est que don. Il m'a donné la vie, il m'a donné l'intelligence, il m'a donné des talents, il m'a donné des amis. Et si vous êtes marié, il vous a donné un époux, une épouse, il vous a donné des enfants. Et à nous, prêtres, il nous a donné un ministère, enfin, il nous a donné, on a plein de choses. Alors on prend, on met la main sur ce que Dieu nous donne, dans le sens où on fait ce qu'on a envie de faire, pour Dieu parfois, oui, même parfois pour la solidarité, pour les autres, mais c'est nous les patrons. On gère l'héritage, on prend l'héritage et on fait à notre idée, parfois des idées géniales, mais sans Dieu. Notre monde aujourd'hui fait cela. Jean-Paul II le décrit très bien quand il parle à propos de notre société occidentale moderne, de la méta-tentation, la tentation au-delà de toute tentation, c'est-à-dire que Dieu, on n'en a pas besoin, on prend, et on a des découvertes extraordinaires, avec les frères à table, on parlait d'Internet, c'est extraordinaire tout ce qu'on a découvert aujourd'hui, tout ce qu'on découvre en bioéthique, tout ce qu'on découvre en technologie, c'est extraordinaire. Mais l'homme se construit avec tout ça sans Dieu. Dieu là-dedans, aux abonnés absents. C'est ça. Nous prenons notre vie, tout ce que Dieu nous a donné, et sans nous en rendre compte, nous dilapidons l'héritage. On est en train de s'apercevoir que la planète risque peut-être d'être malade dans quelques années. Alors, on tire la sonnette d'urgence. Ben oui. Si l'homme fait n'importe quoi avec... Voilà, c'est notre péché à tous. C'est notre engagement à tous. Mais on peut faire ça aussi dans notre vie particulière, personnelle. Chaque fois qu'on ne reçoit pas, on prend. Alors le fils, du coup, se retrouve, à un certain moment, il commence à réaliser, il se retrouve perdu. Et dans cette perte, le fils n'a dans son cœur, de l'idée de son père, qu'une seule chose, chez mon père, on a à manger. Donc si je retourne, au moins, comme serviteur, j'aurai à manger. C'est-à-dire qu'il n'a plus comme idée de son père dans son errance que celle d'un patron. En ce sens, il n'a rien compris. Et chaque fois que nous avons dans notre tête, dans notre cœur, l'idée que Dieu est un patron, ben on n'a rien compris. Et la preuve qu'on n'a rien compris, c'est que ce fils qui remonte vers la maison de son père, il a dû faire sa confession dans le détail et tout, puis se dire, il a préparé son affaire, il n'a pas le temps d'arriver, il n'est pas déjà à la maison, que le père lui court après, le couvre de baisers, hein, fait tuer le veau gras, lui donne l'habit des noces, l'anneau, il est de nouveau rétabli. Et qu'est-ce que dit son père ? Il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils. Ce qui veut dire que pour le père, quelle que soit l'horreur des péchés qu'a commis son enfant, quelle que soit la boue dans laquelle il se traîne en ayant dilapidé l'héritage, pour le père, le fils reste toujours le fils. Notre dignité d'enfant de Dieu, quelle que soit la gravité de nos péchés, notre dignité est abîmée, mais du côté de Dieu, elle n'est pas perdue. On est toujours les enfants de Dieu. Dieu veut nous rendre la beauté de notre dignité, mais dans son cœur de père, le père parle toujours de son fils, pas celui qui a commis tel ou tel péché. Il le sait, il est au courant. Mais c'est, voilà. Alors le fils, là, il est bouleversé. Là, il commence à comprendre que son père, c'est plus un patron. C'est pas un patron. Ça n'a jamais été un patron. Le fils est né dans cette parabole. Alors, c'est celui qui n'a pas dilapidé. Lui, il n'a rien pris. Il est resté à la maison. Et il gère les biens de la maison. Il est réglo. Du côté de la loi, RAS, rien à signaler, pas d'erreur. Mais le pauvre enfant, il est dans la maison. Lui aussi, comme un serviteur, avec dans le cœur l'idée que son père est un patron. Et donc que tout ce qu'il fait, il doit se le faire payer, se le donner. Voilà, hein, c'est la réflexion qu'il a quand son père lui dit « Mais ton frère était mort, il est revenu à la vie, et il ne fallait pas faire la fête. » Et lui de dire « Mais tu ne m'as jamais rien donné. » Et le père de répondre « Mais tu ne m'as jamais rien demandé. » Tu voulais tout te faire payer, tu ne m'as jamais rien demandé, tu t'es considéré avec moi comme un serviteur, mais je suis pas ton patron, lui dit, en train de lui dire le père. Et le père lui dit cette phrase étonnante, tout ce qui est à moi est à toi. Si saint Antoine peut faire tant de bonnes choses pour nous, mais c'est parce que c'est un enfant du bon Dieu au paradis. Saint Antoine, il a compris que le père, voilà, il fait pas n'importe quoi saint Antoine, il va pas faire nos caprices saint Antoine. Mais il est au ciel comme un enfant du Père. Alors, ben c'est normal qu'un enfant demande à son Père ce dont il a besoin. Il ne se le fait pas payer, c'est normal. Voilà, les deux fils, ils étaient tous les deux avec dans le cœur l'idée que leur Père est un patron. Et le Père leur dit, mais non, mes enfants, vous êtes mes enfants. Tout ce qui est à moi est à vous. Et le plus grand cadeau que Dieu nous fait, et nous le célébrons à chaque sacrement et particulièrement à l'Eucharistie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tout donné et de nos péchés, il a tout pris sur lui. Dans un instant, chacun de vous, chacun de nous qui recevrons le pardon de Jésus, on n'a rien à payer. C'est gratuit, c'est donné totalement gratuitement. On n'est pas dans du commerce avec Dieu. C'est l'amour qui se donne. Alors, c'est dans la mesure où on prend conscience que l'amour se donne gratuitement et totalement, c'est vrai, l'exigence, c'est d'en faire autant. C'est la moindre des politesses, c'est plus qu'une politesse, c'est vraiment l'amour. On n'imagine pas que des époux pourraient se donner l'un à l'autre s'il y en a un qui disait « Moi, je me donne à toi, mais à 50%. Hein. » Non. Voilà, Dieu nous a tout donné. Nous sommes chez lui, nous pouvons tout demander, comme nous le faisons avec saint Antoine. Mais pour être dans la salle des noces, pour être de la famille et dans la famille, c'est vrai, Ben, il faut vivre comme des enfants du roi, comme des enfants du Père. Pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Le péché ne peut pas rentrer au paradis. Le Père, quand il accueille son fils, il ne lui dit pas « tu n'as pas péché ». Il ne lui dit pas « c'est pas grave ce que tu as fait ». Non, il ne lui dit pas cela. S'il lui disait cela, il lui enlèverait sa dignité. Non, non, il lui dit « tu es toujours mon fils ». Quelle que soit la gravité de ton péché, tu es toujours mon fils. Tu as toujours ta place en moi, dans mon cœur. Tu es toujours appelé à rentrer dans la salle des noces. Et le vêtement des noces, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. Mais il faut être purifié de ses péchés. Donc il faut demander le pardon de ses péchés. C'est gratuit, mais il faut quand même le demander. Parce que ça, c'est notre dignité. Vous voyez, dire à quelqu'un ce que tu as fait, c'est pas grave. Eh bien, c'est grave de dire cela à quelqu'un. Parce que si le péché qu'il a commis, c'est grave, c'est sa dignité de pouvoir dire « j'ai fait ce mal et il est grave, mais je suis fils, j'ai une liberté, je suis digne de confesser mon péché et d'être enfant. » Je voudrais ici vous donner le témoignage de ce jeune qui a 18-19 ans a tué la jeune fille avec laquelle il sortait. Il n'était pas très bien dans sa tête. Et voilà, un coup de passion, pour ne pas la perdre, il l'a tuée. Le papa et la maman étaient parents de 8 enfants. C'était leur aîné. Ils avaient prévenu leur fille. Le papa a témoigné le jour du jugement du garçon. Il a témoigné devant les jurés, il a dit ceci. Aujourd'hui, avec mon épouse, nous n'avons pas 8 enfants, nous en avons 9. Ce garçon qui est là, c'est comme si c'était notre garçon. Quand il a tué notre fille, bien sûr, nous sommes douloureux de la perte de notre fille, mais nous savons que le Seigneur existe, elle est auprès du Seigneur. Et ce garçon, nous avons tout de suite pensé à lui, il a gâché sa vie. Et nous avons pensé à ses parents, nous leur avons écrit, nous lui avons dit notre pardon. Nous n'avons pas 8 enfants, nous en avons 9. Et le garçon au tribunal a dit au juge, je demande à mon avocat de ne pas plaider. Alors le juge lui a répondu, c'est pas possible, il faut laisser votre avocat plaider pour vous. Non, je demande à mon avocat de ne pas plaider, je veux me montrer digne du pardon de ses parents. Il prenait sa responsabilité. Il confessait son péché. Il accueillait le pardon. Il était homme. Il était rendu à sa dignité par cet acte de liberté. C'est la miséricorde qui accomplit la justice. Si nous croyons que Dieu est notre Père et qu'il nous pardonne, comme ce papa de la terre a su le faire avec son épouse, et mieux encore, et infiniment plus, nous n'avons pas de peur à avoir. Le plus grave de nos crimes, nous pouvons venir le trouver, le lui dire, c'est notre dignité de confesser notre péché. Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui fait qu'un homme est homme, c'est sa capacité à prendre des décisions. Alors si mes décisions, je les ai mal prises, je les ai engagées dans le mauvais sens, c'est ma dignité de le dire, d'y renoncer et de dire maintenant, c'est dans ce sens-là que je veux marcher. Du côté de Dieu, il n'y a jamais de condamnation. Il y a totale miséricorde dans la justice. On appelle un mal un mal. Alors vous comprendrez que le sacrement du pardon, comme j'aime le dire, c'est un bain d'amour où les enfants de Dieu que nous sommes, parce que nous osons prendre notre responsabilité devant ce Père qui nous aime infiniment, eh bien nous sommes baignés dans l'amour. Nous sommes pardonnés, nous sommes guéris, nous sommes rendus à notre dignité. Je voudrais ajouter ici une conviction profonde qui est le fruit de l'expérience de tous ceux qui connaissent ce que c'est que l'humain, selon leur métier. Et nous, prêtres, comme disait Paul VI, les ministres de l'Église, l'Église est experte en humanité. Le mal qu'on a commis, si nous ne prenons pas la responsabilité de le confesser et d'y renoncer, il est en nous comme un abcès, pour ne pas dire comme un cancer, qui nous ronge. Parce que Dieu nous prend au sérieux. Et le mal qu'on a commis, je peux l'avoir oublié, il peut être enfoui dans ma vie depuis longtemps, j'ai pu m'endurcir au point de ne plus m'en apercevoir. Les médecins vous diront ça, on peut avoir dans son corps un corps étranger qu'on ne sent plus, mais parce qu'il est étranger à notre corps, il peut créer une gangrène. Le péché, c'est comme ça. Le mal qu'on a commis, qu'on n'a pas confessé, auquel on n'a pas renoncé, il est comme une gangrène dans notre vie. Il nous empêche de vivre. Il y a parfois, nos prêtres, nous en sommes témoins, des confessions, des conversions, de gens qui se disent « mais je n'arrivais pas à savoir pourquoi j'avais telle difficulté tout au long de ces années. » Et puis voilà, parce que la grâce est là, parce que le Père attire ses enfants, parce que la lumière a été donnée, au soir de la vie, on s'aperçoit « oh, y a ça, j'ai vécu ça, il y a longtemps, et puis je m'en suis moqué, j'ai oublié. » Mais c'était là, dans ma vie, et ça m'empestait sans que je le sache. Croire vraiment que Dieu nous veut beau dans tout ce que nous sommes, que la liberté qu'il nous a donnée, il nous prend vraiment au sérieux, donc il nous dit, mes enfants, ne restez pas avec le mal que vous avez fait, je suis là pour vous l'enlever. Regardez ce mal qui vous fait du mal. C'est pareil pour le mal qu'on a subi. Si on n'arrive pas à pardonner un jour ou l'autre, ce mal-là nous fait beaucoup de mal. De la même façon que le Père nous pardonne, nous aussi nous devons apprendre peu à peu à pardonner. C'est le témoignage de la fille du général Chamoun au Liban. Lorsque le Liban était sous les bombes, il y a une dizaine d'années, elle avait perdu sa maman, ses frères et sœurs, une partie de sa famille. Elle avait pris les armes comme les autres. Elle a fini par dire, j'ai compris qu'on ne s'en sortirait pas avec les armes. On ne s'en sortira qu'avec la miséricorde, qu'avec le pardon. Voilà. Et dans l'Église aussi, nous le disons, et je vous le redis ce soir, l'Eucharistie que nous célébrons, pour qu'elle porte du fruit, il faut que la salle des noces soit prête. Si je m'approche de l'Eucharistie et que jamais je ne me confesse, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas d'aplomb. Et l'Eucharistie, même si je la reçois, ne produit pas de fruits. Je satisfais ma conscience, ma bonne conscience, celle que je me donne, mais l'Eucharistie ne produit pas de fruits. Dieu ne peut pas, à travers l'Eucharistie, donner toutes les grâces qui sont dans l'Eucharistie, même si je la reçois, si mon cœur n'est pas en état de grâce, si je n'ai pas mis mon cœur à l'unisson du cœur de Dieu. Le sacrement de la réconciliation est fait pour retourner le chrétien, le baptisé, dans sa grâce de communion avec Dieu. Et il y a des péchés qui tuent la grâce de communion. Les péchés graves tuent la grâce de communion. Les péchés véniels l'abîment, mais les péchés graves tuent. Alors, pourquoi ? L'Église enseigne toujours cela. Ce n'est pas pour condamner ceux qui ne peuvent pas s'approcher de la communion, c'est pour les y préparer, pour qu'ils puissent la recevoir un jour. L'important est de la recevoir un jour et de s'y avancer, de s'y préparer. C'est pourquoi c'est si important. Au moins une fois par an, enseigne l'Église, au moins une fois par an, de faire une bonne confession. Mais pour y voir clair dans sa vie, je vous l'ai déjà dit et je ne vais pas y revenir davantage, mais je le rappelle ici ce soir. Pour y voir clair dans sa vie, il y a deux conditions essentielles pour y voir clair sur son péché. Parce que l'habitude fait qu'on ne le voit plus, son péché. Hein ? On peut être complètement endormi. Eh bien, c'est la lecture de la parole de Dieu c'est de se mettre sous le soleil de Dieu. Si je n'ouvre pas les fenêtres de ma maison, je n'y verrai pas rentrer, je ne verrai pas où est la saleté dans la maison. Donc si j'ouvre les fenêtres de l'Évangile sur le soleil de Dieu, je verrai combien je suis aimé, mais je verrai aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas très d'aplomb dans ma vie. La lecture de la parole de Dieu et la prière, demander à l'Esprit Saint, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer sur notre vrai péché, sur la racine de nos péchés. Parfois, nous confessons les symptômes de la maladie. Je me mets en colère, toujours, contre cette personne. Ça, c'est un péché. Mais ça peut être un symptôme d'une maladie plus grave. Je me mets en colère toujours contre cette personne parce que je suis jaloux de cette personne. Ah, ben voilà, la racine est là. Tant que je n'ai pas confessé ma jalousie, tant que je n'ai pas renoncé à ma jalousie, ben je me mettrai toujours en colère. Voyez, que l'Esprit Saint nous éclaire sur les racines de notre péché. Et puis peu à peu, voyez, peu à peu, la miséricorde de Dieu nous rétablit, de confession en confession, de communion en communion, mais des communions préparées en état de grâce. On finit par devenir un saint, être tout rempli de la sainteté de Dieu. Personnellement, je suis toujours étonné que des chrétiens me disent « moi, je n'ai pas besoin de me confesser » ou « je n'y vais plus » ou « il y en a beaucoup qui n'y vont plus ». Quand j'ai appris qu'un Jean-Paul II se confessait tous les vendredis, jusqu'à la fin de sa vie, qu'un Padre Pio s'est confessé toutes les semaines, jusqu'à la fin de sa vie, le dernier acte qu'il a posé, c'était de se confesser, je me dis « Seigneur, quelle liberté et quelle confiance dans ce Père du ciel qui nous aime tant. » Et ce que j'ai appris, là je vais le dire du Padre Pio, ce que j'ai appris chez le Padre Pio à travers la grâce étonnante qu'il avait pour confesser, j'aurais voulu découvrir celle de Saint Antoine, mais on n'a pas de témoignage, c'est beaucoup trop loin. Mais la grâce que Padre Pio avait justement, c'est d'aider les pénitents à faire une bonne confession, une vraie confession. Et les pénitents sortaient du confessionnal en dansant. Alors, j'ai compris avec le Padre Pio que Dieu nous voulait beau dans toute notre vie, dans tout ce qui fait notre vie. Alors je termine là-dessus. Une bonne confession, c'est de croire d'abord qu'on est aimé de Dieu, et puis venir trouver à travers un prêtre, à travers le prêtre, c'est Dieu qu'on trouve, et lui dire ses péchés, trois qualités pour dire ses péchés. Que ma confession soit complète, ça veut dire j'oublie pas un domaine de ma vie. Dieu ne me veut pas simplement un saint dans ma vie professionnelle, il me veut aussi un saint dans ma vie sexuelle, dans ma vie sociale, dans ma vie maritale, dans tous les domaines de ma vie. Voilà. Dieu, il ne nous aime pas qu'un petit bout, il nous aime tout entier. Donc moi aussi, je fais la vérité dans toute ma vie, complet, sobre, on n'a pas besoin d'un roman. On n'a pas besoin des détails, ça ne sert à rien. Non, on dit l'essentiel, on va à l'essentiel. On dit tel péché, voilà, j'ai commis ça, point, terminé. Pas de détails. Parfois, on peut demander un détail ou l'autre pour aider à y voir clair, mais sobre. Et puis, vrai, être vrai. Pas dire un péché pour en cacher un autre, vous voyez. Si je dis que je me suis mis en colère contre mon frère et puis que j'ai tué mon frère, je vais être guéri de ma colère, mais pas du crime que j'ai commis, quoi. Vous voyez, on peut toujours... Comme on a un peu de mal à dire son péché, voilà. Être complet, être sobre, être vrai, et puis si c'est bien préparé, peut-être que ce soir vous n'êtes pas prêt, mais préparez-vous. Les frères ici sont toujours prêts à vous entendre en confession. Une vraie confession. Vraiment, quand on a fait une vraie confession, il y a des pénitents de Padre Pio qui le disent. Je pense à celui-ci, je ne vais pas vous raconter son histoire, ça serait trop beau, trop long. Il disait ceci, « Moi qui n'avais pas mis les pieds dans une église depuis 25 ans, après une confession à Padre Pio, je n'aurais voulu pour rien